Les chroniques BNF.
Bonjour et bienvenue dans la mémoire vive du 72e Festival d'Avignon, une chronique qui se replonge dans l'histoire du festival à partir des archives de la bibliothèque de la Maison Jean Villard. Bonne écoute à tous.
Deux dates qui résonnèrent particulièrement ces jours-ci. 20 ans et deux fois champion du monde. Une Coupe du Monde qui offre à certains la possibilité d'un regard nostalgique dans le rétroviseur. Nous apprenons par exemple, au fil de nos recherches dans les magazines et journaux de l'année 98 conservés à la Bibliothèque nationale de France de la Maison Jean Villard, que le Théâtre du Rond-Point à Paris transforma à l'occasion de la Coupe du Monde deux salles de spectacle en espaces de retransmission, précisant dans un communiqué que les retransmissions seront accompagnées de cocktails ou dîners de gala. En 2018, c'est bien à la Maison Jean Villard que nous avons pu visionner la finale le 15 juillet dernier. Ainsi, au-delà du football, cette coïncidence des dates nous a donné envie de nous replonger dans Avignon 98, 52e édition. Quelle problématique était alors montée au plateau, sur les planches de la ville ? C'est au fil des ruelles avignonnaises que Luc, le directeur de notre radio, a déniché il y a quelques jours un programme du OFF, celui de 98. Et c'est ainsi que nous est venue l'envie de replonger dans les archives. Deux étages au-dessus du studio de la radio, voici la BNF de la Maison Jean Villard, et tout y est, presque comme si on y était. Programme, presse, bible de salle et programme des conférences. Alors de quoi vibraient les murs des théâtres en 98 ? Quels pas résonnaient sur les tréteaux ? On découvre ainsi qu'un des thèmes majeurs de ce festival d'Avignon 98 était l'Asie. Ce grand continent était représenté par deux pays mis à l'honneur, Taïwan et la Corée. Regroupés sous le titre « Désir d'Asie », 11 spectacles furent ainsi présentés, parmi lesquels les Coréennes, longue soirée de 4 heures donnée à la carrière Boulbon, avec pour objectif de présenter un ensemble illustrant ses musiques, danses et chants, constituant tous le fond culturel coréen. Shakespeare était également à l'honneur en 98. Laurent Pelly investissait ainsi la cour d'honneur par une adaptation de « Vie et mort » du roi Jean. Pour le metteur en scène, nous dit le programme, il s'agit d'affaires intemporelles, la lutte sans espoir de la loi contre la force, l'éternel retour de la barbarie et de ses désordres. Le temps réversible du théâtre expose la récurrente sauvagerie chez l'homme. Barbarie, lutte fraternelle autour du pouvoir, exacerbation des passions sont autant d'éléments portés également à leur paroxysme en 2018 dans cette même cour par Thomas Joly. Avec Thieste, si la terrifiante vengeance d'Atrée a pour point de départ son égo d'époux, c'est l'attrait du pouvoir qui persuade son frère d'accepter la funeste réconciliation. Au cloître des Carmes, Irina Brooke s'emparait quant à elle de Shakespeare également pour mettre en scène « Tout est bien qui finit bien » avec le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkin, qui décida quant à elle d'explorer cette merveille qu'est la deuxième chance, au-delà des nœuds de l'intrigue, afin d'aider le spectateur à puiser des remèdes au fond de lui-même. Roméo Castellucci était également présent en 98 et il livrait aux spectateurs d'Avignon sa version de Giulio Cesare, en se concentrant plus particulièrement sur un travail de la voix. À l'aide, nous informe le programme, de nombreuses technologies. Larynx artificiel, endoscope, déformation des cordes vocales par aspiration d'hélium, etc., etc. Et c'est Eimuntas Nekrosius, auteur lituanien, qui s'attela à la mise en scène d'Hamlet, devenu alors une rockstar perdue dans un univers de cris et de chuchotements, un enfer de glace, de feu, de métal et de sanglots. Pas de danse à l'honneur dans la cour en 98, mais Œdipe le tyran de Sophocle dans une version d'Hölderlin par Jean-Louis Martinelli et Philippe Lacoulabarthe. La question de l'engagement politique au théâtre semble également toujours se poser 30 ans ou 50 ans après 68, année où Avignon connut ses plus fortes secousses politiques. 98 en célébrait donc les 30 ans et les journaux de l'époque célébraient cet anniversaire chacun à leur manière. La Provence, par exemple, a fait le choix de faire revivre quotidiennement dans ses colonnes les épisodes marquants de ses journées de juillet sous la forme d'un feuilleton. Dans le off, on retrouve néanmoins Bac 68, mis en scène et proposé par Philippe Cobert, en référence à son année de bachelier en 68. Et une journée était également organisée au village du Off cette année, le 12 juillet, intitulée Mai 68, la journée nécessaire, avec des conférences, performances et concerts autour de ce thème. En ce qui concerne le programme du Off, justement, il ressemble bien peu en 98 à l'édition de 2018. Un format A5 relativement léger, moins de 200 spectacles y sont répertoriés et annoncés, contre, rappelons-le, plus de 1500 aujourd'hui. Une augmentation exponentielle en nombre, mais qu'en est-il de la programmation elle-même ? Certaines résonances sont sensiblement repérables. De grandes pièces du répertoire classique, bien sûr, Trois Phèdres en 98, Racine aussi avec Andromaque et des textes plus contemporains, qui continuent 20 ans plus tard à interroger notre rapport à l'actualité, aux politiques et par là même à notre humanité. Primo Levi, par exemple, et son texte « Si c'est un homme » semble faire partie de cela et se retrouve dans les deux programmes. En ce qui concerne les lieux du festival Off, on en recense 80 en 98 contre 130 aujourd'hui. Même si certains ont disparu, dont deux lieux extramuros, la MJC de Champfleury et l'usine Volpony, qui était un lieu à la fois consacré au Off et au In. Parmi les archives consultables à la BNF, tous les articles de presse concernant les spectacles joués au festival sont conservés. En s'y plongeant, on trouve des critiques et des magazines, des hors-séries dédiées. Ainsi, un petit encadré à la page 13 du magazine Politis, consacré au festival, attire notre attention. Une petite photographie en noir et blanc, assez discrète, se détache dans le panorama de l'année culturelle 97-98. C'est Olivier Py, présenté alors comme un jeune metteur en scène montant. Il était nommé directeur du Centre dramatique d'Orléans à compter du 1er juillet 98. L'article ajoute ainsi que Py avait avoué ne pas se reconnaître dans ses pères de théâtre, mais plutôt dans les grands-pères qui, comme Jean Villard, fondèrent le théâtre public. Et l'article conclut « C'est bon signe ». 20 ans plus tard, depuis la maison Jean Villard, force est de constater que le journaliste fut inspiré.